On va maintenant entrer un peu dans ce qu'on appelle le scan du portefeuille et vraiment voir un petit peu les différents produits. On en avait parlé au téléphone. Tu prends ton téléphone parce que tu as des...
J'ai des antisèches.
Ah bah oui, c'est très bien. Alors, de quoi est composé votre portefeuille?
On fait d'abord ce qu'il y a en commun, peut-être, et puis...
Bah, qu'est-ce qu'il y a en commun?
Bah, le compte-titre. On a un compte-titre? Ouais, mais on n'a pas le...
Quel compte-titre? Ah, le compte...
Là, il est en train de t'expliquer qu'il t'a arnaqué, quoi. Donc, y a pas de
il n'y en a plus, en fait, qu'il a économé mes codes, et en fait...
Bah, je t'ai un compte-titre, mais il a ton nom.
Ah oui, mais en commun, vraiment en commun, je parlais le même type d'investissement.
Ah.
Avant de scanner le portefeuille de ce charmant couple venu nous expliquer comment ils investissaient ensemble, laissez-moi vous les présenter. Léa et Julien, en couple depuis plus de 10 ans, mariés même, ont tous les deux un capital investi sur les marchés. Pour Léa, il s'agit d'un héritage placé à l'aide d'un conseiller en investissement, car elle n'était pas très certaine de faire cela seule. Pour Julien, c'est surtout du stock picking sur des valeurs situées principalement en Europe via ces deux comptes-titres. Tous les deux vont nous raconter leur premier pas en bourse et nous expliquer pourquoi et comment ils font cela ensemble. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans le 44e épisode de Tracker, le podcast de l'écho qui suit celles et ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs. Dans cet épisode, nous avons discuté à travers l'expérience du couple formé par Léa et Julien de la gestion de l'argent en famille. Dans Tracker, nous avons déjà eu l'occasion d'aborder cette question. Florian était venu accompagné de ses parents. Un autre couple, Caro et Steph, étaient venus nous parler de leurs investissements en crypto-monnaie. À chaque fois, la même complicité et la même confiance pour une question aussi importante que l'argent. D'argent, il en sera aussi question à Finance Avenue, le salon des finances personnelles organisé chaque année par l'Écho. Nous y enregistrons même une émission spéciale dans l'édition à venir et serons heureux de vous accueillir à la conférence que nous tiendrons avec certains invités de notre podcast. On vous met tous les détails dans les notes de l'épisode. Ma collègue Isabelle Dickmans, qui dirige le service Mon Argent à l'Écho, nous donnera plus de détails sur le programme du salon Finance Avenue et les réponses aux questions que de jeunes investisseurs comme Léa et Julien ont dû se poser il n'y a pas si longtemps. Première question, qui a contaminé qui?
Je pense que c'est moi.
Ouais.
Ouais, c'est moi qui ai commencé à investir depuis 6 ans. J'ai commencé d'abord avec la bourse, vu pas mal de vidéos sur YouTube, j'ai lu pas mal de livres et puis je me suis lancé dans la bourse. Ensuite, les cryptos, un peu d'immobilier aussi. Et toi, Léa, c'est arrivé
Vous vous connaissiez déjà il y a 6 ans.
Ouais.
Donc toi, tu l'as vu devenir très vite riche et tu t'es dit, attends...
Pas du tout. Non. Je suis devenue très, très riche, beaucoup plus vite que lui. Non, je plaisante. en fait, oui, on se connaît depuis 11 ans.
Très bien.
11 ans.
Bravo.
Et en fait, moi, je l'ai vu faire tout ça de loin.
Oui, parce que ça t'intéressait pas vraiment.
Non, ça m'intéressait vraiment de loin.
C'était pas palpable pour toi ce que je faisais.
Ouais, voilà. Moi, j'étais du genre je suis vraiment cette personne-là à dire moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un prêt. Si j'ai de l'argent, c'est de l'argent que j'ai physiquement, qui est dans mon faux plafond. Voilà. Et donc, oui, je suivais tout ça de loin. Et quand même, un jour, je me suis dit, ça lui prend quand même pas mal de temps. Il faudrait peut-être qu'il m'explique tout ce qu'il fait. Parce que voilà.
Mais tu avais quand même une vue sur les résultats de Julien ou
Oui.
Bah, j'essaie de t'en parler après.
Ouais, au début, il était tout feu, tout flamme. Il a fait ses petits tableaux Excel avec ses résultats spéculatifs au bout de 40 ans pour essayer de plus bosser à 40 ans avec tous les capitaux qu'il aurait récupérés. Bon, c'était bien sympa. Et du coup, c'est là que ça a commencé à m'intéresser.
Donc, c'était vraiment investir pour préparer la suite,
voilà,
voire avoir une liberté financière,
tout
une indépendance
fait.
Financière.
Exactement,
ouais. Ouais.
Ouais, j'ai fait des projections. Ouais.
Et donc, alors, Léa, tu t'es fait accompagner par Julien, et toi, Julien, t'as plutôt appris par toi-même.
Ouais, exactement, ouais, c'est ça.
Ouais.
Pas que par moi, du coup. Enfin, je vais expliquer quand même les grandes lignes de ce que je faisais, de ce qui était possible de faire. Mais après, je trouve que c'est quand même si on est marié, voilà, je trouve que c'est quand même hyper difficile d'investir pour quelqu'un d'autre. Donc, je lui ai donné les grandes lignes, des conseils. Et après, par la suite, bah, Léa est partie, enfin, a fait ses placements grâce à un conseiller en gestion de patrimoine, principalement.
Oui.
Et quand tu étais voir ton conseiller, tu confrontais peut-être tout ce que toi, tu avais digéré de ce que Julien te disait. Est-ce que ton conseiller t'a dit « c'est bien, vous êtes bien accompagné » ou ouais. Il t'a dit « c'est un taré, ton mari ».
De toute façon, j'étais là.
Ouais, on était ensemble. Parce qu'en fait, il faut dire aussi qu'on fait pas grand-chose, pas ensemble. On communique beaucoup sur tout ce qu'on fait, donc forcément, il savait. Et moi, je me sentais plus à l'aise qu'il soit là aussi pour que si jamais j'avais un souci technique, un truc que j'arrivais pas à expliquer, il soit directement là.
Je piste le...
Ouais, voilà. Puisse jumper aussi.
Te le transcrire avec des mots que tu comprends.
Ouais, voilà. Quoi. Parce que moi, c'était ça, l'idée, c'était surtout de dire, ok, voilà ce que je sais, voilà ce dont j'ai envie pour la suite et qu'est-ce qu'on fait, quoi.
Donc, tu faisais aussi le rôle de l'interprète.
Voilà, c'est ça.
Ouais, exactement, ouais.
C'est ça.
Et aujourd'hui, vous avez chacun un portefeuille d'investisseurs, investisseuses séparés.
Ouais. Oui.
Mais rien en commun.
Rien en commun.
Non, on n'a rien en commun. Non,
on n'a rien en commun.
Pour le moment.
Pour les placements, non.
C'est qui gagne pour le moment?
Je pars peut-être avec un peu d'avance, donc ouais. Je suis peut-être encore en tête pour le moment.
Hein.
Après, dans l'avenir, on verra, je ne sais pas.
Investir avec son partenaire, est-ce que c'est une bonne idée? Comment Léa et Julien, qui se connaissent très bien, font-ils au quotidien? Les deux tourtereaux nous l'expliquent.
Vous dites que vous faites beaucoup de choses ensemble. Quelle est la place que la bourse, les investissements en général prend dans votre quotidien de couple?
Ben, je sais pas, parce que je saurais pas dire.
Parce que c'est à tous les repas que vous faites des
démonstrations. Non, on en parle quand même régulièrement.
En fait, on n'a pas vraiment la même approche. Oui. Toi, Léa, tu avais un capital à investir, tu l'as investi avec ton conseiller. Voilà, maintenant, c'est investi, tu touches des dividendes tous les mois. Ça s'arrête là, globalement.
Oui, globalement, voilà. Mais après, c'est plus moi. Vu que toi, t'es plus actif.
Voilà, moi, je suis plus actif. Donc, c'est vrai que quand on en parle, soit c'est tous les mois où tu me dis « Ah, ça y est, j'ai touché mes dividendes ce mois-ci. » Ou alors, sinon, quand on en parle le reste du temps, c'est plutôt moi qui vais te dire ouais. « Ah, tiens, j'ai fait ci, tiens, j'ai fait ça. »
Ouais, c'est ça.
Mais non, on n'en parle pas tous les jours, non, ça...
Non, pas globalement, tous les jours, mais au moins une fois par semaine, je pense.
Ouais. Globalement, ça reste quand même assez passif comme investissement dans notre vie.
Oui.
Et toi, Léa, qui le connais bien, Julien, est-ce que parfois tu l'as vu rentrer à la maison en mode « Ah, il y a eu une mauvaise journée en bourse aujourd'hui ?»
Non.
Non,
non, ça va, il est assez serein. Parce que je pense que, ouais, globalement...
Ouais, je prends pas énormément de risques non plus. Je fais pas du day trading, je fais du stock picking, mais quand même à long terme, donc...
Ouais, voilà. Et je pense que t'es pas non plus de nature quelqu'un... Enfin, t'es pas un joueur, t'es pas anxieux, t'es pas... Enfin, tout ça, t'as pas tous ces sentiments-là.
Peut-être
en fait.
Que, du coup, maintenant, ça doit faire 6 ans que j'ai commencé à investir, je pense. 5-6 ans, c'était en 2018. C'est vrai qu'à l'époque, au tout début, je regardais mon portefeuille tous les jours, limite 3-4 fois par jour, voir comment ça fluctuait. Voilà, ça doit faire... une semaine ou deux que j'ai pas regardé pour voir où ça en était. Comme je sais que c'est pour du long terme, je suis plus aussi tout feu tout flamme comme ça à savoir où en est mon portefeuille. Et donc, oui, ça, il y a sûrement des jours où mon portefeuille a fait moins 4, moins 5 ou moins 6%. Je m'en suis même pas rendu compte parce que j'ai regardé que 3 ou 4 jours après et que ça avait remonté entre temps. Donc non, ça va de ce côté-là. Ça empiète pas trop sur notre vie privée.
Je pense que tu étais averti aussi quand tu as commencé, enfin, tu vois.
Oui, j'y suis allé petit à petit, j'ai testé des trucs avec des petites sommes. J'ai vu ce qui marchait moins bien, ce qui était risqué, ce qui me convenait ou ce qui me convenait pas. Et une fois que j'ai un peu déterminé mon profil, alors à ce moment-là, j'ai mis des sommes un peu plus importantes. Mmh. Donc voilà, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit.
Et Léa, est-ce que tu as... Si tu n'avais pas rencontré Julien ou si Julien n'était pas investi en bourse, c'est une option que tu aurais choisie naturellement pour placer de l'argent?
Non, jamais. Non, 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 pas du tout. Parce que nous, pareil, vu qu'on parle de couple, de famille et tout ça, nous, dans la famille, on n'est pas du tout... on n'a aucune éducation financière, en fait, aucune éducation de l'épargne, de... Voilà. Et d'ailleurs, tout l'argent que j'ai eu à placer, mes sœurs l'ont eu aussi, parce que c'est un héritage. Et en fait... Tout le monde était paumé là-dedans. Donc, en fait, c'est Julien qui même se charge de... Enfin, pas de parrainer, mais du coup, de faire de nouveau l'interprète un peu pour...
Avec tes sœurs.
Ouais, toute la famille. Et d'essayer de, un peu de...
Du conseil en investissement. Tu te fais payer pour ça ?
Non, ça reste vraiment du conseil très léger, mais par exemple...
Mais y a plein... D'ailleurs, il y a plein de gens qui te demandent tout le temps, en fait. Ma sœur te demande, et c'est là où tu dis tout le temps, c'est compliqué d'investir pour les autres, et puis...
Mais c'est pas simple, ouais.
Ouais.
Parce que quand ça marche bien, on est content d'avoir partagé un coup à des copains ou à la famille. Par contre, quand ça marche un peu moins bien, un peu plus difficile à gérer, quoi.
Alors, où trouver de bons conseils pour placer son argent ? Comme je vous le disais dans l'introduction du podcast, notre rédaction s'active actuellement pour préparer le salon Finance Avenue, qui se tient ce samedi 18 novembre à Tour et Taxi. On fait le tour des choses à ne pas manquer avec Isabelle Dickmans, responsable du service Mon Argent à l'Écho.
Alors Isabelle, je vois que tu es en pleine activité parce qu'il y a le salon Finance Avenue qui commence bientôt.
Oui, c'est la grosse effervescence.
Pour nos auditeurs, pour les trackers de l'Écho, qu'est-ce qu'il y a à voir à Finance Avenue ?
Ben en fait, Finance Avenue, c'est un grand salon dédié à l'argent et aux finances personnelles. Donc pour tous les auditeurs qui sont intéressés par leurs finances personnelles et leurs investissements, leur patrimoine de manière générale, donc c'est une manière de trouver toute une série de contenus réunis au même endroit pendant toute une journée. Et donc, ils vont pouvoir assister à différentes conférences, différentes keynotes.
Et il y a des conférences qui pourraient être intéressantes ?
Ben notamment, on va parler de la manière d'investir dans l'intelligence artificielle. Toi, tu vas parler d'ailleurs avec tes invités de la manière de gérer ses émotions quand on investit.
C'est ça, on enregistre sur place une émission avec un trader professionnel et des anciens invités des podcasts trackers et on parlera de la gestion de ses émotions quand on investit en bourse.
Ben peut-être qu'on pourrait leur conseiller d'écouter la conférence qui porte sur les options pour placer 25 000 euros en toute sécurité, parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de tout investir en crypto-monnaie. Alors, il y aura aussi une conférence sur les crypto-monnaies, parce qu'il serait quand même possible d'investir dans la crypto en limitant les risques que l'on prend. Donc, il y aura aussi le grand débat des stratégistes qui clôture traditionnellement le salon. Et donc là, c'est Marc Lambrecht qui demande à quatre stratégistes de premier plan quelles sont leurs actions préférées, ce qu'il faut acheter en 2024. Mais aussi, hors marché financier, il y aura aussi des conférences et des interventions en immobilier. Il y a une salle spéciale immobilier, donc on va parler d'investir dans sa propre maison, mais aussi d'investir dans l'immobilier, dans une pure optique de placement. Et donc, on va faire un zoom sur la colocation qui permet de booster son rendement locatif.
Outre les débats et les conférences, est-ce qu'on attend des personnalités importantes ?
Oui, alors il y aura la présence du ministre des Finances, Vincent Van Petegem, qui va répondre aux questions d'un journaliste sur scène. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi poser des questions à Vincent Van Petegem via notre site et nous essaierons de les lui poser lorsqu'il sera présent samedi.
Et alors, en plus des conférences et des débats que l'Écho organise, il y a plein d'exposants, il y a un petit peu tout ce qui se fait en finance en Belgique qui est présent. Donc,
oui, c'est ça.
Le public peut poser des questions.
C'est ça. Ouais. L'idée, c'est de déambuler donc dans les stands et parfois d'aller assister à une conférence et puis de continuer à déambuler dans les stands.
Finance Avenue, c'est donc ce samedi 18 novembre et l'enregistrement du tracker que nous réaliserons sur place est prévu à 13h. Le thème du débat, comment gérer ses émotions quand on investit. Retour chez Léa et Julien. Avant de scanner leur portefeuille, je vous propose de les écouter nous parler de leur profil d'investisseur. Deux profils diamétralement opposés.
Pour Léa qui fait enfin en tout cas au niveau de la bourse, toujours,
oui,
hein,
oui.
Qui fait vraiment de l'investissement passif, je vais plutôt conseiller des fonds plutôt que de faire du stock picking. C'est pas du tout par rapport à son profil, ça colle pas du tout. Léa avait vraiment besoin d'investir et de plus se prendre la tête avec ça. Donc j'ai essayé au tout début en lui ouvrant un compte titre, lui faire acheter quelques petites actions comme ça, mais voilà, le suivi c'était compliqué et finalement... On a resté sur une très petite partie du portefeuille là-dessus, qu'on écoule quand c'est dans le vert. Mmh. Et on reste sur une approche plus sur des fonds, pour pas qu'elle ait besoin de se prendre la tête avec ça. Et ça, je savais qu'elle était comme ça, et donc je lui ai déconseillé d'aller acheter des actions au cas par cas.
Et moi, pour le coup, je pense que j'ai rien à t'apprendre, parce que moi, je suis pas du tout...
On sait jamais.
Oui, ben peut-être toujours, plus dans le mindset ou dans le... Oui.
Est-ce que par exemple, il y a une action que tu as en portefeuille, tu l'as que parce que ton choix a été fait suite à une discussion avec Léa.
Que je réfléchisse.
Genre, elle a quand même raison, en fait.
J'espère.
Dans mon portefeuille.
Non.
Bah, t'as une idée ?
Non, mais il y a un truc sur lequel j'ai insisté pendant longtemps où t'as pas encore changé vraiment ta stratégie. Tu sais ce que c'est ?
Oui, oui. Bah, parce que c'est pas le bon moment, mais un peu quand même. J'ai vendu les trucs qui étaient moins...
Ok. En fait,
c'est quoi ?
En gros, j'ai essayé de lui dire que s'il avait moyen de choisir des trucs qui étaient un peu moins nocifs pour l'environnement, c'était pas plus mal. D'avoir un peu de coller à des valeurs un peu plus écolo.
Je suis assez d'accord avec ça, hein, mais c'est juste que quand on en parlait, les actions que je ciblais dans ce domaine-là, je trouvais que c'était un peu surévalué par rapport à la valeur de l'entreprise. Donc, j'avais pas envie d'investir là-dedans, en tout cas à ce moment-là, parce que pour moi, c'était trop cher par rapport à la valeur de l'entreprise.
Donc, t'as tout mis dans les armes et le pétrole, alors.
Exactement. Nickel, quoi. Mais justement, j'avais des pétrolières que j'ai vendues. J'ai profité du fait que ce soit haut pour...
Et là, alors, il les a vendus, il est venu chez toi, il t'a dit, t'as vu ?
Ouais, exactement.
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Il a fait ça, il était fier et tout.
Voilà.
Donc, vous vous influencez mutuellement.
Oui, bah oui, c'est sûr.
Oui, bah oui. C'est sûr. Ouais.
Je pense que peut-être palpable, c'est pas direct, mais je pense que le fait d'en discuter ou de semer sa petite graine,
voilà,
en fait...
Ça rentre quand même dans une oreille, ça reste là, et puis quelques temps après, on se dit, ah, bon, ça, c'est vrai que c'est pas ouf pour la planète, j'ai une belle plus-value, bon, allez, c'est peut-être le moment de s'en séparer et puis de dire adieu définitivement et d'essayer de trouver autre chose.
C'est l'heure du scan du portefeuille de nos invités. Léa et Julien vont nous dévoiler le contenu de leurs investissements et nous expliquer pourquoi ils font cela.
Chacun a un compte titre, mais il n'est pas en commun. Elle a le sien et j'ai le mien.
Et du coup, on a des actions, enfin des...
Oui, toi, t'as 3 lignes que je lui avais fait acheter à Léa, mais ça date même d'avant que tu reçoives l'héritage.
Ouais, je pense. Oui, ça c'était au
avant.
Début, ouais.
J'avais investi un peu, enfin je lui avais conseillé quelques titres à une époque et j'ai vu que c'était pas vraiment ce qui l'intéressait, donc on a laissé comme ça et on vend au fur et à mesure en fonction de la performance des actions qui restent dans le compte titre.
Et toi, du coup ?
Et moi, j'ai compte titre, j'en ai 2. J'ai des cryptos aussi, des NFT, et je suis associé dans une société immobilière en France. J'ai un appartement en Bretagne.
T'as 2 comptes titres ou t'as un compte titre avec 2 lignes ?
2 comptes titres différents, parce qu'en fait, je les avais ouverts en France. Donc, il y en a un qui s'appelle un PEA,
oui.
Et l'autre, c'est un compte titre classique. Donc, dans le PEA, j'ai toutes mes actions européennes. Parce que j'investis que en Europe, majoritairement en France, un peu en Belgique et un peu en Allemagne.
Alors, PEA, pour les auditeurs belges, c'est un portefeuille qui permet d'être défiscalisé.
5 ans.
Et qui permet surtout aux petits porteurs, aux investisseurs particuliers, ceux qui y vont avec des montants d'irraisonnables, de profiter mieux de la bourse.
C'est ça. Oui, c'est limité en termes de sommes.
Donc pour commencer aussi, c'est ça qui était...
Ouais. Et du coup, il y avait des intérêts fiscaux au bout de 5 ans, à partir de 5 ans après l'ouverture.
Et alors, en plus de ça, tu as un autre... Et
alors j'en avais un autre que j'avais ouvert aussi, parce que dans le PEA, les sociétés immobilières cotées n'entrent pas. Et donc, j'avais ouvert l'autre compte-titre, qui est un compte-titre classique, pour mettre un petit peu d'immobilier coté.
Et dans les fonds, Léa, il y a combien de fonds dans ton portefeuille et comment ça se passe, en fait, concrètement ?
4.
Oui.
J'ai demandé à Léa. Hein.
Ouais, je sais, mais il sait mieux que moi, hein, tu sais, il maîtrise. Le reste qui est en SCPI, en assurance vie.
Mm-hmm.
Et j'ai... 4 produits, enfin...
Ouais, t'as 4 lignes...
4 lignes en SCPI.
Non, 3 en SCPI.
Je sais plus, c'est 3 et 4. Bon, il y en a 7 au total, quoi.
3 en SCPI, donc...
7 au total et
4 en fonds euros et unités de compte.
Ouais, voilà.
Et c'est des lignes qui sont alimentées régulièrement
non.
Ou tout est mis là-dedans.
Tout est mis là,
et
ouais.
Ça dort. Enfin, ça travaille pendant que...
Alors non, en fait, il y a deux stratégies. J'ai divisé en deux, avec une partie qui est plutôt pour du moyen terme, pour des projets de vie, d'achat, d'appartement, de choses comme ça. Et un autre qui est vraiment pour un horizon plutôt de 15-20 ans. Et là, je touche les dividendes. Et l'autre, c'est juste, voilà, ça travaille en attendant qu'on en ait besoin.
C'est ça. Donc, il y a une partie de l'argent qui pourra être, par exemple, repris si vous avez un projet intéressant qui se présente devant vous dans les 5 ans. Une autre, c'est pour bien plus tard.
Pour moi, ce n'est pas palpable. Donc, tu vois, pour moi, c'est... Ouais, voilà, c'est immatériel. Donc, en fait, ça va, ça vient. Il n'y a pas de... Moi, c'est vraiment purement... Allez, on peut dire un peu égoïste, quoi, mais c'est pourvu que ça me rende service. Voilà, entre guillemets.
Avec vos investissements, est-ce que vous avez eu des mauvais coups, des actions qui vous êtes fait beaucoup d'espoir dessus et finalement ça n'a pas marché?
Oui, il y en a eu quelques-unes.
On veut tout savoir.
J'essaie de les oublier, donc il faut que j'aille les rechercher dans ma mémoire, mais...
Il t'a dit ça, Léa?
Oui, je pense que...
Il t'a averti des risques qu'on encourt.
Mais mon conseiller l'a fait, en tout cas, si lui ne l'avait pas fait.
Il y en a une, bon, ça va, j'ai pas mis grand-chose, mais c'est une société où il y a eu des rumeurs de falsification des comptes et ça avait perdu moins 80% en une journée.
Une fintech allemande.
Exactement. Mmh. Voilà, donc j'ai dû mettre, je sais pas, 50 euros là-dedans.
Ah, oh, ça va.
Oui, voilà.
Ah, ça va.
Oui.
Je t'ai pas pour qui, hein.
En me disant, ce qui le lendemain, il y avait eu, non, finalement, peut-être pas. Donc, je me dis, vas-y, je vais tenter un petit coup. Puis bon, finalement, on est à moins 99%.
Et toi, tu l'as ramassé à la cuillère, dépité parce qu'il avait perdu toute sa mise.
Non, mais je te dis, il n'est pas stressé, en fait. Donc, non, même pas.
C'était un risque raisonné. Déjà, de base, je mets rarement plus que 3 à 4% de mon portefeuille par ligne. Et sur des coups très risqués, j'essaie de rester... en dessous des 0,5 ou... Donc, voilà.
Mais t'as vraiment une gestion très active, dynamique, mais mesurée dans le sens...
Ouais, c'est ça.
Tu
super veux pas prudent.
Oui,
c'est
quand
pour
même.
Ça, en fait. T'es super prudent.
Oui.
Et j'imagine que ça t'a rassuré. Parce que si t'avais un Julien à la maison qui était...
Ah non, pas possible. Ouais, non, j'aurais jamais fait ça. Si... S'il se mettait...
Si tu me voyais d'un jour à l'autre...
En saut d'humeur, je me serais dit, c'est hyper stressant, j'ai pas besoin de ça, c'est pas la peine.
Et quand on reçoit un héritage ou de l'argent de sa famille, on a envie que ça soit utile, que ce soit pas...
Oui, mal dépensé. Ouais. Mais il y a aussi ça, en fait, je pense que, quelque part, vu ce qu'on fait, c'est parce que, aussi, c'est de l'argent qui nous sert pas, entre guillemets.
Oui, oui, oui.
C'est pas de l'argent dont on a besoin.
C'est ça.
J'ai une question beaucoup plus terre à terre. Dans le couple Léa-Julien, c'est qui porte la culotte?
À ton avis, tu dirais qui maintenant que ça fait...
Je dirais ça dépend pourquoi.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
Ouais, je pense, ouais.
C'est ça. Ben, je suis plus calme, plus posé, alors que Léa est plus dynamique. Donc sur pas mal de domaines, c'est toi qui vas prendre les décisions ou qui va... Parce que, comment dire, t'es plus...
Fais gaffe à ce que tu veux dire.
Non, mais
non,
direct.
Non, mais ici, hein. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble, donc il peut y aller. Hein.
T'es plus...
Plus spontané et plus direct.
Ouais, voilà. Alors que moi, j'ai plus besoin de réfléchir et... Des fois, c'est peut-être trop long.
Non, mais c'est assez complémentaire, parce que quelque part, moi, je suis hyper spontané. Donc en fait, il y a des moments où c'est hyper bien... C'est hyper bien d'être spontané, parce qu'il y a des fois où il faut se décider, c'est maintenant, et si t'attends trop, c'est mort, c'est passé, quoi. Et il y a des fois où il faut prendre le temps de réfléchir, et c'est là où Julien, c'est vachement bien de l'avoir, et je pense à l'inverse.
Oui, on est bien complémentaires.
Ouais, je pense que...
Donc, en tant qu'observateur extérieur, c'est bien que toi, tu sois alors dans une gestion plus passive de ton portefeuille,
oui.
Et toi, avec ton tempérament, dans une gestion plus active.
Complètement,
ça.
Je ferais
l'inverse. Imaginons l'inverse.
Voilà, moi, je ferais du 1% de rendement, et toi, non. Tu prendrais des risques inconscients.
Ah ouais, non, non, laisse tomber.
Place à la question des trackers de l'écho. Comme chaque semaine, nous proposons à nos invités de vous poser une question. Question qui alimente les débats dans notre groupe Facebook, les Trackers de l'écho, un groupe qui approche doucement des 4000 membres, ce qui me fait dire qu'on offrirait bien quelques autocollants et de la lecture à notre 4000e tracker sur le groupe Facebook. On écoute maintenant la question de Julien et Léa.
Alors, on voulait demander au tracker de l'écho.
Si vous parlez aussi facilement de votre épargne et de votre investissement perso au sein de votre couple, comme vous parleriez de projets du quotidien.
Et si vous seriez prêt aussi à faire des concessions et à faire confiance à votre partenaire pour coller un petit peu aux valeurs de votre couple.
Eh bien, on va demander aux trackers de l'écho.
Envie de leur répondre ? Rejoignez notre groupe Facebook Les Trackers de l'écho ou écrivez-nous à l'adresse podcast@l'écho.be. Si on ne se voit pas à Finance Avenue, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast adoré. C'était Salim Nesba et Julie Garrigue pour Tracker, le podcast de l'écho qui suit celles et ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs.